France Inter.
Journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous. À la une ce matin, plus vous serez accro, plus vous gagnerez d'argent. C'est TikTok Lite, nouvelle version démoniaque de l'application chinoise. Lancée il y a quelques jours en France, elle récompense le temps passé devant l'écran. Explication dans un instant, à l'heure où l'addiction aux réseaux sociaux devient un problème de santé publique. Voilà qui pourrait bien intéresser votre invité.
Ah, certainement, l'auteur de science-fiction Alain Damasio qui nous propose cette fois une science-fiction au présent, une plongée dans la Silicon Valley dans son dernier livre « Vallée du Silicium ». Comment les nouvelles technologies contrôlent nos vies ? Vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter.
L'Oural et la Sibérie sous l'eau en Russie, inondations massives. Les sinistrés osent se mettre en colère contre les autorités, on va l'entendre. Dans ce journal aussi, la mère d'Avalon en prison est mise en examen hier soir avec ses frères, affaire de trafic de drogue. La proposition de Bègle en Gironde très précise pour expérimenter sur place la légalisation du cannabis. Et puis ces livres d'occasion qui froissent les éditeurs et les auteurs, ils ne touchent rien sur un livre sur cinq vendu en France.
France Inter.
TikTok et ses vidéos qui défilent à l'infini. L'application revendique déjà plus de 21 millions d'utilisateurs en France. Pourquoi pas plus ? Plus accro, plus longtemps ? Grâce à TikTok Lite, qui vient donc d'être lancé en catimini, en France et en Espagne. Cette nouvelle version de l'application est une sorte de pacte avec le diable. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour Florence.
Le principe est le suivant, visionner un maximum de vidéos proposées par l'algorithme et récolter des pièces de monnaie virtuelle à échanger contre des bons d'achat Amazon.
Oui, l'équivalent est simple. 10 000 pièces donnent droit à 1 euro. J'ai installé l'application sur mon téléphone. C'est coloré, ludique. Il y a même une alerte pour vous rappeler les défis à relever. Et surtout, le compteur monte vite. 300 pièces dès l'inscription. 450 à chaque jour de connexion. 150 à chaque like de vidéo proposée dans le fil ou chaque compte suivi. Et plus de 4 000 si l'on passe au moins 25 minutes quotidiennement et ainsi de suite jusqu'à 1h30 maximum. Au bout d'un mois, on peut facilement se retrouver avec 15, 20, 25 euros en poche selon sa consommation. Cagnotte qu'on peut donc dépenser en bons Amazon jusqu'à 500 euros ou passer dans des cadeaux virtuels adressés aux influenceurs que l'on suit. Ça marche sur Android pour l'instant, pas sur iPhone. Et la seule condition pour l'utiliser, TikTok insiste, c'est de prouver sa majorité en montrant sa carte d'identité, en donnant son empreinte bancaire ou en faisant un selfie. Mais on sait que tout ça se contourne très facilement.
Et en plein débat de santé publique sur l'addiction, notamment des plus jeunes aux écrans, TikTok, Xavier va donc encore plus loin.
Oui, pour engranger de nouveaux utilisateurs et les garder captifs, quitte à augmenter notre dépendance aux écrans. L'application est pourtant déjà dans le viseur du régulateur européen et même menacée d'interdiction aux États-Unis. Cette nouvelle version light, pour alléger en anglais, est une copie du TikTok classique en mode économe, de quoi aussi attirer les petits forfaits ou les possesseurs de smartphones entrée de gamme, comme les plus jeunes notamment. En fait, le réseau chinois n'a qu'une idée en tête, rattraper et surtout dépasser la concurrence encore bien installée de Facebook et d'Instagram.
Et TikTok va d'ailleurs lancer bientôt un nouveau service, encore un autre, sur le modèle d'Instagram. Merci Xavier Demani, rédaction numérique de France Inter.
100 000 personnes évacuées en Russie et au Kazakhstan.
Inondations massives depuis plusieurs jours. Le Kremlin juge la situation très très tendue dans les régions de l'Oural et de la Sibérie occidentale. Forte pluie, hausse des températures, fonte des neiges. Dans la ville d'Orsk, 200 000 habitants, une digue a cédé. Et si l'eau est un peu redescendue hier, la colère monte contre les autorités. Reportage signé Sylvain Tronchet.
Le théâtre d'Orsk est transformé en centre de distribution d'aide alimentaire. Olga vient de récupérer ses deux sacs plastiques. Cette femme nous montre ses vêtements. C'est tout ce qui lui reste, explique-t-elle, alors que sa maison est sous 2 mètres d'eau.
Tout est noyé. Il n'y a plus rien à récupérer. Où vais-je aller maintenant avec 3 enfants ? Personne ne sait rien. Je suis veuve avec 3 enfants. Qui va me dédommager ? C'est la grande négligence de nos autorités. C'est à cause d'eux que la moitié de la ville est inondée.
La colère des habitants vise le maire, venu leur dire de ne pas s'inquiéter, que la digue qui protégeait les quartiers sud de la ville, les plus pauvres, allait tenir. Elle a cédé en pleine nuit. Igor ne lui pardonne pas.
Lors d'une réunion, il n'a même pas pu prononcer 2 mots. Il bêlait comme un mouton. Soi-disant, les castors ont rongé le barrage. C'est une blague, une blague. Il n'y a pas eu d'entretien, pas de réparation, pas de surveillance, rien.
Il y a quelques jours, les sinistrés réunis sur la place de l'hôtel de ville ont lancé ce cri. Poutine à l'aide, mais le président ne viendra pas, redit le Kremlin hier, et l'État laisse les autorités locales gérer la colère qui menace, elle aussi, de déborder. Orsk, Sylvain Tranchet, France Inter.
À l'étranger, toujours plus de partis ni d'associations politiques. Au Mali, la junte au pouvoir vient de suspendre leurs activités pour cause de troubles à l'ordre public et de subversion. À 2 mois des élections européennes, voici l'illustration par le vote du chacun pour soi des Français. On parle du pacte asile-immigration, adopté hier par le Parlement à Bruxelles. Contrôle plus strict à l'entrée de l'Union. Système de solidarité dans l'accueil des migrants. Alors, qui a voté pour? Qui a voté contre? En France, Maxence Lambrecq, les eurodéputés ont donc fait bande à part et s'en sont expliqués hier soir lors d'un débat sur RFI et France 24.
Sur l'écran noir, de petits points rouges à côté d'un nuage vert. Les socialistes allemands, espagnols, roumains ont voté pour la plupart des mesures, pas leur collègue français Raphaël Glucksmann.
Si je ne vote pas ce texte, c'est parce que je l'ai lu dans le détail. Il n'y a rien sur le fait de sauver les gens en mer.
Un texte inhumain, non. Le rejeter, c'était offrir un boulevard aux eurosceptiques, estime le groupe socialiste européen. Seuls les partisans d'Emmanuel Macron l'ont voté, Valérie Ayer.
Je vois bien les stratégies électorales des uns et des autres autour de cette table ce soir. Monsieur Bellamy, à droite, vous refusez de soutenir ce texte parce qu'au fond, vous courez toujours plus derrière l'extrême droite. Non, et malheureusement, on en a la démonstration supplémentaire ici.
Les 6 élus français de droite n'ont pas suivi la position de leur groupe, jugeant le tout trop laxiste. Le RN a fait de même. Fabrice Leggeri, numéro 3 de la liste.
Le pacte asile-migration ne résout rien. C'est une tromperie politique et inhumaine.
Une tromperie pourtant soutenue par Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien dont Marine Le Pen s'inspire en partie. Difficile de s'y retrouver, admet un député qui a jusqu'au bout eu peur de voir ses années de négociations balayées par les enjeux nationaux. Ne rien voter, c'était renforcer encore l'abstention le 9 juin prochain.
Maxence Lambrecq.
À Bordeaux, on parle d'une rixe qui aurait mal tourné.
Premiers éléments de l'enquête ouverte hier soir alors qu'un homme en a poignardé 2 autres, dont un mortel. Avant d'être abattu par la police dans sa fuite, la scène a eu lieu sur les quais de la Garonne, entre le Miroir d'Eau et le pont de Pierre. Les victimes sont de nationalité algérienne. La piste terroriste est pour l'heure écartée. La mère d'Avalon a passé la nuit en prison après 3 jours de garde à vue. Jamila Absaoui, mère d'hiver gauche, mise en examen avec ses frères. En tout, ils sont 7 mis en cause dans cette affaire de trafic de drogue, arrêtée dimanche dans Lyon, du cannabis et de la cocaïne. Dans une maison dont l'édile est propriétaire. Détail avec Delphine Evenoux.
Le procureur de la République d'Auxerre n'a pas voulu préciser les motifs des mises en examen, mais ce sont bien, selon lui, les 2 frères de Jamila Absaoui qui sont mis en cause dans l'enquête préliminaire ouverte en octobre dernier, comme pouvant faire, je cite, « de l'achat et de la revente de drogue de manière habituelle ». Les faits ont commencé en janvier 2023 et ce, depuis le domicile de leur sœur, maison dont la mère d'Avalon est propriétaire, mais où vit leur père âgé. C'est là, dans une dépendance, que l'essentiel de la drogue a été saisi dimanche. 70 kilos de cannabis et près d'1 kilo de cocaïne. Le reste, un peu de stupéfiants, 7000 euros en liquide et 2 lingots d'or pour une valeur de 24000 euros, a été découvert dans les autres domiciles perquisitionnés. Rien à la mairie d'Avalon, rien à la pharmacie où travaille Jamila Absaoui. Avec l'ouverture hier d'une information judiciaire, c'est donc le temps de l'instruction, sans doute long, qui commence.
Delphine Evenoux, Jamila Absaoui est abasourdie. Selon son avocat, elle n'a rien à voir, dit-il, avec les faits qui lui sont reprochés. Un maire bousculé, ça c'était hier soir à Combeau-les-Bains, dans les Pyrénées-Atlantiques. Une centaine d'opposants à un projet immobilier ont perturbé le conseil municipal. Le maire a fini projeté au sol avant d'être évacué par les pompiers à l'hôpital de Bayonne. Expérimenter la légalisation du cannabis. La mairie écolo de Bègles, en Gironde, vient de présenter officiellement son projet. Selon la philosophie suivante, pour faire baisser la fumette dans le pays le plus consommateur d'Europe, il faut autoriser le cannabis. Alors après 1 an de travail avec un comité scientifique et un comité citoyen, voilà le projet qui sera soumis au gouvernement, Sarah Mansoura.
La mairie de Bègles a imaginé un cadre strict. 100 habitants, majeurs et déjà consommateurs, suivis pendant 5 ans. Ils achèteraient dans un local municipal discret pour consommer sur place ou chez eux uniquement. Idée qui séduit Viviane, consommatrice.
Déjà un peu peur de la police, puis un peu peur aussi de se faire arnaquer par exemple. On ne sait pas qui on a en face et on ne sait pas ce qu'on a dedans effectivement. Et là, si c'est contrôlé, je sais pas, c'est un petit peu comme manger bio, quoi. Ça me rassure personnellement dans ma consommation.
Cela rassurait aussi Gaëtan, à qui il n'a pas échappé que le cannabis serait vendu environ d'environ 10% sous les prix du marché noir.
Si ça se passe comme ça, je pense qu'ils vont réduire beaucoup le marché noir et moi je serai prêt à acheter. Si on va y arriver, je ne sais pas du tout. Je pense que politiquement ça va être dur de le faire passer au niveau national, mais il y a quand même quelque chose à tenter.
Le maire écologiste de Bègles en convient, il faut, dit-il, lutter contre les points de deal. Mais son principal souci, c'est la réduction des risques pour les 5 millions de consommateurs réguliers en France.
Bien sûr, c'est contre-intuitif.
Clément Rossignol-Puech.
Dire pour diminuer la consommation, il faut l'autoriser. Les gens vont dire, quand même, c'est... En fait, c'est ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que dans les pays qui ont choisi une légalisation comme objectif premier à la santé publique, ça fonctionne. Soyons pragmatiques, expérimentons, nous verrons bien.
Il espère qu'à terme, une légalisation encadrée au niveau national permettrait non seulement de réduire les trafics et désengorger les tribunaux, mais aussi de faire émerger une filière agricole française et de générer de nouvelles recettes affectées à la santé publique.
Sarah Mansoura, le projet sera remis au président de la République et au Premier ministre en espérant obtenir prochainement une loi qui permette de mener cette expérimentation. La ville de Strasbourg est aussi intéressée. Redressement judiciaire. Dépôt de bilan, 17 000 entreprises concernées au premier trimestre. Cette année, la France n'avait jamais connu autant de défaillances d'entreprises depuis 2015.
Et en voilà d'autres qui ne vont pas très bien non plus, les cliniques privées.
Une sur deux en difficulté. Il y a 15 jours, le gouvernement leur a annoncé que leurs actes payés par la Sécu n'augmenteraient pas ou presque cette année, alors que les tarifs des hôpitaux publics sont revalorisés de 4,3%. Colère du secteur, qui connaît souvent les mêmes problèmes que le public. Victor Deland l'a constaté à Trappes dans les Yvelines, à l'hôpital privé de l'Ouest parisien.
55 000 passages aux urgences par an, des malades qui attendent sur des brancards, dans les couloirs. À première vue, rien ne distingue cette clinique privée d'un hôpital public. Lionel Savé, chirurgien et président de la commission médicale d'établissement.
C'est une mission de service public. Voilà, on a ici un service d'urgence, on accueille des internes, on fait de la recherche, on fait de l'enseignement et donc on fait absolument tout ce que fait l'hôpital public.
Olivier Gontier est chef du service de réanimation. Avec ses équipes, ils ont accueilli de nombreux patients pendant la crise Covid. Ils continuent de le faire au quotidien et regrettent cette nouvelle guerre publique-privée relancée, dit-il, par le gouvernement.
J'ai reçu un patient d'urgence publique où il n'y avait pas de place en réanimation localement. Donc sur le terrain, on ne sent pas cette opposition. Après, c'est le ministère qui veut privilégier le public. Bon, on le sent bien. Je pense que c'est les patients qui vont en pâtir.
Plus de 20 millions d'euros de déficit sur les 5 dernières années pour cet établissement, épongé par l'actionnaire. Frédéric Damon, directrice du pôle Île-de-France-Ouest des cliniques privées du groupe Ramsay.
L'inquiétude est majeure. Hein. Ça fait des années qu'on demande la convergence tarifaire entre le privé et le public et ça n'est effectivement pas entendu. Hein. Mais là, les tarifs tels qu'ils ont été conçus posent la question de la pérennité de la majorité des établissements.
Selon les dernières estimations, plus d'une clinique privée sur deux est en situation de déficit.
Victor Dolan, toujours au chapitre santé, des boîtes de 10 ou 15 comprimés, le tramadol rétrécit ses plaquettes à la demande des autorités sanitaires pour limiter les risques d'addiction à cette opiacée antidouleur. Paris pas magique hier soir en quart de finale aller de Ligue des Champions. C'est Barcelone qui a gagné 3-2. Match à rebondissement et ballotage défavorable pour le PSG en attendant le match retour mardi prochain. Ce soir, place à l'OM en Ligue Europa. Quart de finale aller là aussi sur la pelouse du Benfica Lisbonne sans supporters marseillais a priori, car le club portugais vient de décider d'annuler leur billet après avoir été averti. Dit-il que ses supporters seraient interdits de stade au Vélodrome la semaine prochaine pour le match retour. Pourtant, aucune décision officiellement annoncée. Mais les 2000 fans de l'OM, dont certains sont déjà arrivés à Lisbonne, sont dépités.
Ça nous a coûté à peu près 500 euros chacun, les jours de repos. On arrive, on est à Lisbonne et on n'a pas le droit d'aller au stade. Donc voilà, ça va être encore plus le bordel que si on va au stade.
Le problème, la France ne sait pas organiser un événement sportif. On botte en touche à chaque fois. Ils gâchent la passion.
Vu qu'il y a déjà pas mal de Marseillais qui arrivent, peut-être au forcing, ils vont laisser rentrer.
Ayant fait plusieurs déplacements, et pas seulement pour l'OM, je sais que ça peut se terminer en chaos. Un parkage, ça se gère beaucoup plus facilement que 3000 supporters marseillais qui sont dans la ville librement.
Voilà, parole et récrimination de supporter de l'OM au micro de Jean-Pierre Blimaud à Lisbonne. Affaire à suivre dans la journée. Acheter un livre neuf qui vient de sortir autour de 20 euros ou bien le même. Déjà lu mais beaucoup moins cher. Le choix est vite fait, surtout en ce moment. Résultat, un livre sur cinq vendu en France est un livre d'occasion qui ne rapporte rien aux éditeurs et aux auteurs non plus. On en parlera sans doute dans les allées du Festival du Livre de Paris. Ilana Moriousef.
Cette étude, la
première du genre, révèle ce que de nombreux écrivains savaient déjà intuitivement pour avoir vécu des scènes un peu humiliantes, comme celle que raconte la romancière Carole Zalberg, invitée il y a quelques années à un salon du livre où il n'y avait pas foule.
Un visiteur a fini par s'approcher de mon stand et j'avais vraiment l'impression qu'il connaissait mon travail et qu'il arrivait pour regarder ce que j'avais publié. Donc j'étais un peu contente, je me suis redressée. Et en fait, il m'a tendu mon premier roman qui était sorti quasiment 20 ans avant. Je me suis saisie du livre et je l'ai ouvert et je me suis rendu compte que non seulement, évidemment, c'était un exemplaire d'occasion, mais qu'il était déjà dédicacé. Je trouve que ça résume vraiment notre embarras.
Cette réalité, on est maintenant capable de la chiffrer. Un livre vendu sur 5 est un livre d'occasion. Bertrand Legendre, professeur d'économie qui a coordonné l'enquête, a même des données plus précises.
Dans le domaine du roman policier, un livre sur 2 vendu est un roman policier d'occasion. En littérature, en roman contemporain, c'est un livre sur 4. C'est donc considérable. En termes de chiffres d'affaires, on estime que le livre d'occasion représente aujourd'hui quelque 350 millions d'euros.
Un marché sur lequel les auteurs ne perçoivent pas le moindre centime. Arriver à changer cela, c'est tout l'enjeu pour les écrivains et les éditeurs.
Ilana Mor-Youssef, et on précise que le Festival du Livre, car on ne parle plus de Salon du Livre, mais bien de festival, ouvre ses portes ce soir à Paris.
Merci Florence Paracuello. Un mot de l'invité de Mathilde Serrel à 9h20. Elle incarne une surveillante de prison dans le nouveau film de Stéphane Demoustier. C'est l'actrice Afsia Herzi qui sera dans ce studio.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur euromaster.fr.
Marie-Pierre Planchon, une belle amélioration dès ce matin.
Et oui, car l'anticyclone Simon concerne pratiquement tout le pays et assèche la masse d'air et atténue bien la dépression qui est rentrée hier par la Bretagne en ne laissant ce matin qu'un ciel bien chargé mais peu pluvieux du Finistère aux Ardennes et une belle bande nuageuse entrecoupée d'éclaircies du nord Aquitaine au centre Val de Loire, alors qu'au sud d'une ligne qui relierait les Landes à la Lorraine, vous avez vu le soleil se lever avec du vent près des côtes méditerranéennes et encore un peu d'instabilité laissée par la goutte froide qui glisse vers le Maghreb. Et donc cette instabilité, on la retrouve sur la Corse, la Côte d'Azur et quelques flocons sur le Mercantour sous des valeurs qui ont baissé sous ce ciel dégagé. Il fait moins 2 à Saint-Ouen-les-Parés. Dans les Vosges, moins 1 à Saint-Étienne, 3 petits degrés à Millau, 5 à Pau, 7 à Bordeaux-Montpellier, alors que vous avez 13 dans les Côtes d'Armor à Pommery-Gendy.
La fameuse goutte froide. Mais cet après-midi, ce sera ensoleillé sur les deux tiers du pays, c'est
oui,
ça?
Oui, car au nord, on aura toujours cette perturbation qui résiste un peu, mais pratiquement plus de pluie sous les nuages qui vont glisser vers les Ardennes, mais le soleil va revenir sur le centre et des éclaircies se formeront également en Île-de-France. Partout ailleurs, soleil dominant, habillé d'un léger voile de nuages jusqu'en Corse, sans oublier le Mistral et les Tramontanes qui ont baissé d'un cran sous un mercure en hausse qui va durer jusqu'à samedi. Comptez 15 degrés à Dunkerque, déjà 18 à Nantes, 19 à Paris comme à Besançon, Lyon ou Andaille. Il fera 20 à Strasbourg, Ajaccio, 21 à Bordeaux ou Antibes, 23 à Perpignan et même 28 à La Réunion, à la rivière Saint-Louis. En se rappelant, Simon, la citation de Gandhi, « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre ».
C'est profond ce matin. Si on peut la vivre au soleil, c'est mieux. Géopolitique.